Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du jeudi 18 août 2016. Au sommaire ce soir...
En RDC, couvre-feu à Beni et Butembo après les manifestations anti-gouvernementales.
L'ancien vice-président sud-soudanais Riek Machar a quitté son pays et sera en route pour l'Éthiopie via Kinshasa.
Et les États-Unis à l'heure du bilan après les graves inondations dans le sud du pays.
Ne manquez pas notre segment sur la présidentielle américaine.
Plein feu sur les Jeux Olympiques.
Juste après, le journal.
Les autorités congolaises ont décrété ce jeudi un couvre-feu à Beni et Butembo, deux villes de l'est de la République démocratique du Congo, au lendemain de manifestations antigouvernementales violemment réprimées par les forces de l'ordre. Saloua Jafari.
Il fallait s'y attendre, les manifestations à Beni étaient violentes et les forces de l'ordre n'y sont pas allées de main morte pour les contenir. Trois personnes, dont un policier, ont été tuées lors de ces confrontations. Sept manifestants ont été mis sous les verrous. Une colonne de centaines de manifestants en partie de Butembo avait rallié à pied Beni pour se joindre au mouvement. Le ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, a décrété un couvre-feu de 19h à 6h du matin dans les deux villes. Désormais, seules les forces de sécurité ont le droit de circuler. En visite éclair à Beni, ce mardi, le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo avait été hué par la foule qu'il a appelé à la démission en accusant les autorités de ne pas avoir su protéger la population. Le dernier massacre a vu 51 civils tués dans la nuit de samedi à dimanche dans les quartiers nord de Beni, Kinshasa ainsi que la MONUSCO attribuent ces tueries aux rebelles des ADF.
Congo-Brazzaville, la demande de mise en liberté provisoire du général Jean-Marie Michel Mokoko a été rejetée d'après son avocat. Le candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars est détenu depuis mi-juin pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Nous y reviendrons en partie magazine.
Riek Machar a quitté le Soudan du Sud pour la RDC. Son parti, le SPLN-IO, avait annoncé dans un communiqué que l'ancien vice-président avait été évacué en toute sécurité vers un pays sûr de la région. Des précisions avec Anastasie Tudiech.
L'ancien vice-président Riek Machar avait fui Juba début juillet, ses hommes ayant été vaincus par les forces loyales au président Salva Kiir. Le poste de vice-président fut alors confié à l'ancien allié de M. Machar, Tabande Ndiaye. Ce dernier avait indiqué qu'il se retirerait au profit de M. Machar s'il revenait à Juba. Mais hier mercredi, M. Ndiaye a appelé Riek Machar à se tenir à l'écart des affaires politiques du pays, le temps de la mise en œuvre de l'accord de paix d'Addis Abeba. M. Ndiaye semble désormais se poser en chef de file de l'ethnie Nuer au sein du gouvernement d'Union nationale. Le soutien dont il dispose est toutefois difficile à évaluer, tant au sein de son ethnie qu'auprès des anciennes forces rebelles, plusieurs cadres de l'ex-rébellion ayant vécu sa nomination comme une trahison. Les camps Kiir et Machar se rejettent la responsabilité des combats de juillet qui ont mis en péril le fragile accord de paix d'août 2015, destiné à mettre un terme à une guerre civile débutée en décembre 2013 et ayant fait des dizaines de milliers de morts et 2 500 000 déplacés.
La mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, a affirmé avoir procédé sur une base humanitaire et en accord avec les autorités congolaises au transport de Riek Machar, de son épouse et de 10 autres personnes de un endroit à l'intérieur de la RDC vers Kinshasa.
Afrique du Sud, le gouvernement est prêt à compenser financièrement les familles des victimes du massacre de Marikana, annonce la présidence. Souvenez-vous, 34 mineurs en grève avaient été tués et des dizaines d'autres blessés par la police en 2012.
Le bras de fer pour le contrôle de Sirte continue en Libye. Le groupe État islamique a mené 2 attentats suicides à la voiture piégée, tuant au moins 10 soldats des forces pro-gouvernementales, d'après les autorités.
Au Maroc, l'un des plus hauts dignitaires musulmans du pays dénonce la nudité obscène dans les villes. La nudité n'est plus affaire de saison. Elle est étalée sous nos yeux, hiver comme été, se plaint Omar Al-Kazabri, imam de la plus grande mosquée du Maroc. Et des jeunes femmes dénudées fumant des cigarettes, des garçons perdus tombés dans les filets de la séduction, dit-il.
Égypte, la télévision d'État a décidé de priver d'antenne des présentatrices. Écoutez bien, à cause de leur surpoids. Les présentatrices auront la possibilité de continuer à travailler dans la production durant la période où elles doivent se mettre au régime.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, ici, aux États-Unis, le bilan des inondations augmente en Louisiane. Et ce jeudi, on parle de 13 morts. Ibagué-Sikoura, plus de 40 000 maisons ont été endommagées depuis vendredi.
C'est désormais l'heure du bilan pour les équipes de secours qui vont maintenant de maison en maison à la recherche d'éventuelles victimes des inondations. 30 000 personnes ont déjà été évacuées depuis vendredi. Ce jeudi, la crue a continué de baisser, permettant l'accès des secours à certaines zones sinistrées. Plus de 100 routes majeures dans la région ont été fermées mercredi. Quelques 22 paroisses, l'équivalent en Louisiane des comtés, ont été déclarées sinistrées, ce qui permet aux autorités locales de faire appel à des fonds fédéraux. Le bilan économique sera plus long à établir, notamment parce que la Louisiane est un État relativement pauvre dont les habitants n'ont pas forcément d'assurance contre les inondations.
Conflit syrien, Moscou se dit favorable à l'appel de l'ONU à une trêve hebdomadaire de 48 heures pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans la ville d'Alep. Pour la troisième journée consécutive, les bombardiers russes sont partis de la base iranienne d'Hamedan pour frapper des cibles en Syrie. Le point avec Lionel Gaïma.
La Russie a appuyé la trêve humanitaire à condition que les convois d'aide se rendent autant dans les zones d'Alep sous contrôle rebelle que dans celles que contrôle l'armée syrienne, a fait savoir le général Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense. L'opération pourrait commencer la semaine prochaine, a-t-il déclaré, ajoutant que les dates spécifiques pourraient être fixées en coordination avec l'ONU après l'octroi par les États-Unis d'un sauf-conduit au convoi d'aide. Ce jeudi, Moscou a indiqué que ses bombardiers sont partis pour la troisième journée consécutive de la base iranienne d'Hamedan, mais aussi des Russies pour frapper les positions du groupe État islamique dans la province orientale de Dai-ez-Zor. Par ailleurs, un porte-parole kurde affirme que l'aviation syrienne a, pour la première fois, frappé les zones sous contrôle kurde du nord de la Syrie, notamment la ville de Hasakeh, faisant plusieurs morts et de nombreux déplacés.
Quatre soldats yéménites ont été tués ce jeudi dans un attentat suicide attribué aux djihadistes d'Al-Qaïda dans le sud du Yémen. Par ailleurs, l'armée a lancé une opération pour tenter de briser le blocus imposé par les rebelles houthis à la ville de Taiz, dans le sud-ouest du pays. Au moins 13 miliciens chiites houthis et 5 soldats ont été tués dans l'opération de Taiz, où l'armée a attaqué simultanément des positions rebelles au nord, à l'est et à l'ouest de la ville, selon des responsables militaires. Les houthis sont soutenus par l'Iran, tandis que le gouvernement Abrabo-Mansour Hadi a l'appui des Saoudiens.
Toujours au Yémen, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières a annoncé l'évacuation de son personnel de 6 hôpitaux du nord du pays après un raid meurtrier. 11 personnes, on se le rappelle, ont trouvé la mort dans cette attaque attribuée par les rebelles aux forces gouvernementales soutenues par Riyad. Les combats ont repris avec beaucoup d'intensité au Yémen il y a quelques jours, suite à l'effondrement d'un effort de paix entre les rebelles houthis et les représentants du gouvernement légitime.
Une nouvelle campagne d'attentats meurtriers a repris en Turquie, où le gouvernement pointe du doigt les rebelles du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Pour la première fois, les attaques visent des régions où la population n'est pas majoritairement kurde. En quelques heures, 3 attaques attribuées par Ankara au PKK ont fait au moins 14 morts et plus de 200 blessés dans l'est et le sud-est du pays. Et cette campagne avait cessé depuis le putsch manqué du mois dernier.
Et vous vous souvenez de ces 8 militaires turcs qui ont fui par voie aérienne vers la Grèce tout de suite après le coup d'État manqué du 15 juillet? Eh bien, c'est ce jeudi, plus d'un mois plus tard, qu'Athènes a reçu une demande formelle d'extradition à leur sujet. Les 8, 2 commandants, 4 capitaines et 2 sergents ont demandé l'asile en Grèce. Ankara les accuse d'avoir pris part au putsch, mais ils clament leur innocence. Une décision sur leur demande d'asile en Grèce est attendue dans environ 2 semaines.
3 soldats ukrainiens ont été tués et 6 autres blessés lors de nouveaux affrontements entre les séparatistes pro-russes et les forces gouvernementales dans l'est de l'Ukraine. Selon un porte-parole militaire à Kiev, que cite l'AFP, la situation dans l'est ukrainien s'est de nouveau détériorée avec notamment une intensification des attaques rebelles. Le porte-parole dit que l'Ukraine n'exclut pas une invasion russe à grande échelle. Ce conflit a fait plus de 9500 morts depuis avril 2014.
Et rappelons un point important de l'actualité africaine, les autorités congolaises ont décrété un couvre-feu à Beni et Butembo dans l'est du pays.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Le journal est des JO sur VOA Afrique avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Le Kenya, toujours la première nation africaine de ces JO.
Et celle-là, elle est en argent. Boniface Tumuti se classe deuxième du 400 mètres et derrière l'Américain Kieran Clement, sacré champion olympique, 8 ans après sa médaille d'argent à Pékin dans cette épreuve. En 47 secondes 73 centièmes, la meilleure performance mondiale de la saison, Kieran Clement a devancé le Kenyan et le Turc d'origine cubaine, Yasmani Copelo, au terme d'une course serrée et rapide qui a vu tomber 4 records nationaux.
Hier déjà, le Kenya avait remporté une nouvelle médaille d'or.
Oui, le Kenyan Conseslus Kipruto, sacré champion olympique du 3000 mètres cible, avec en prime le record olympique. Il s'impose en 8 minutes 3 secondes 28 centièmes devant l'Américain Evan Jagger et son compatriote Ezekiel Kemboy. Ce dernier est disqualifié pour avoir coupé le virage et c'est le Français Mayedin Mekissi, double vice-champion olympique, qui récupère la médaille de bronze.
Autre médaille de bronze pour la Tunisie.
Marwa Amri a remporté la médaille de bronze du tournoi de lutte en battant l'athlète azérie Yulia Radkevich. Elle entre dans l'histoire de la lutte féminine tunisienne en devenant la première à décrocher une médaille olympique.
La Jamaïcaine Thompson est bel et bien la femme la plus rapide du monde.
Oui, la sprinteuse remporte le 200 mètres et réalise le doublé après sa victoire sur 100 mètres. Hélène Thompson remporte la finale en 21 secondes 78 centièmes. Encore une déception pour l'ivoirienne Marie-Josée Talou qui termine encore au pied du podium, quatrième comme lors de la finale du 100 mètres, mais elle n'a pas démérité.
Les résultats de ce jeudi.
L'entrée en compétition chez les moins de 68 kilos du Sénégalais Baladjei en taekwondo. Il a été battu 12-15 par un Polonais. Et David Bouy de la Centrafrique a été battu 6-0 par un Coréen. La Camerounaise Annabelle Laure Ali en lutte libre chez les moins de 75 kilos a effectué un excellent tournoi, mais elle a été battue en quart de finale par une Kazakh. Et puis chez les moins de 53 kilos, la Sénégalaise Isabelle Sambou battue en quart de finale et la Camerounaise Joseph Essombe Taiko battue dès son premier combat.
À suivre, les demi-finales du 800 mètres.
L'athlète béninoise Noélie Yarigo, qualifiée pour les demi-finales de ce 800 mètres. Hier, elle a été repêchée au temps, mais elle avait battu le record national du Bénin. Seront également présentes Caster Semeya, la sud-africaine, tout comme la burundaise Francine Niyonsamba. On parle javelot, puisqu'hier, Julius Yego, le champion du monde kényan de la discipline, a réussi à se qualifier pour la finale. Elle aura lieu après-demain avec un jet à 83,55 m.
Et en football, pas d'Africains en finale.
Le Brésil affrontait le Honduras en demi-finale et Neymar a ouvert le score dès la 15e seconde pour la promenade de santé de la Seleção qui s'impose 6-0. Malheureusement, pas de finale olympique pour le Nigeria. Les Super Eagles se sont inclinés 2-0 contre l'Allemagne. La meilleure attaque du tournoi. On fait le point avec Thierry Kambundi.
20 ans après l'exploit d'Atlanta et 8 ans après Beijing, le Nigeria n'ira pas en finale du tournoi de football olympique. La Dream Team 6 a perdu sa demi-finale face à l'Allemagne 2-0. Lucas Klostermann à la 9e, puis Nils Petersen à la 89e minute ont scellé le sort du match en faveur de la Mannschaft contre une équipe nigériane visiblement en mal d'inspiration et de tranchant. John Obi Mikel et ses coéquipiers n'ont en effet jamais vraiment inquiété l'Allemagne qui a géré son match jusqu'au coup de sifflet final. L'espoir de médaille n'est tout de même pas totalement perdu pour la Dream Team 6 du Nigeria. Elle va affronter pour la médaille de bronze le Honduras, lourdement défait 6-0 par la Seleção brésilienne dans l'autre demi-finale. La finale du tournoi, elle, opposera l'Allemagne, meilleure attaque du tournoi avec 21 réalisations en 5 matchs, et le Brésil, pays hôte, conduite par sa star Neymar Junior. De quoi rappeler la demi-finale du Mondial 2014 et l'humiliante défaite 7-1 subie par la Seleção devant son public face à la même Mannschaft. De Rio, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco avec John Lendon.
1 million de dollars, c'est le montant de l'aide financière sous forme de subvention que l'Inde va accorder au Zimbabwe. C'est en réponse à l'appel lancé par le gouvernement zimbabwéen qui fait face à une situation économique et alimentaire difficile. L'Inde offrira également un don de 500 tonnes de riz au pays de Robert Mugabe. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire signent l'accord Open Skies. Cet accord va approfondir les relations entre les deux pays en établissant un cadre pour des relations commerciales dans l'aviation moderne. La Côte d'Ivoire est l'un des 27 partenaires Open Skies des États-Unis en Afrique subsaharienne. Plus de 1 500 milliards de francs CFA, c'est le montant déboursé en 5 ans par le Cameroun pour résorber les problèmes d'énergie auxquels il fait face. C'est du moins ce que rapporte le quotidien de l'économie, un journal local qui note que malgré ce coût élevé pour la construction des infrastructures électriques, la qualité et la quantité de l'offre au Cameroun restent à désirer.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guerriec et Chirumain Gabi Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, la République du Congo.
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Brazzaville a rejeté ce jeudi la demande de mise en liberté provisoire en faveur du général Jean-Marie Michel Mokoko. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle organisée au Congo doit rester en prison. Ses avocats contestent cette décision du juge, tandis que l'Observatoire congolais des droits de l'homme parle d'une instrumentalisation de la justice. De Brazzaville, écoutons le reportage de notre correspondant Nguela Ngoussou.
C'est une décision de la déception, a dit maître Eric Yvon Ibuanga, avocat du général Mokoko, à la sortie de l'audience tenue à huis clos à Brazzaville. Le conseil de l'officier congolais a indiqué ne pas comprendre cette décision du juge.
La juridiction de la chambre d'accusation devait infirmer la décision du doyen de juge d'instruction et ordonner la mise en liberté provisoire du général Jean-Marie Michel Mokoko, étant précisé que l'instruction a démontré qu'il n'y a plus un seul élément justificatif de son maintien en détention à la maison d'arrêt de Brazzaville. C'est une décision de déception et nous allons continuer à user de tous les moyens que le droit nous donne.
S'agissant des trois chefs d'inculpation désormais retenus contre le général Mokoko, les avocats ont estimé là aussi que c'était au mépris de la loi. Maître Ibuanga.
Qu'il s'agisse des deux premiers chefs d'inculpation, qu'il s'agisse de celui qui lui a été notifié hier, qui porte sur la loi d'avril 2006, laquelle loi est appliquée exclusivement aux partis politiques. Lui, il n'est pas leader d'un parti politique. Il est candidat indépendant. Par voie de conséquence, on ne peut pas lui faire application de cette disposition. C'est pour cette raison que l'inculpation d'incitation au trouble à l'ordre public est de nul et de nul effet.
Observateur averti de cette affaire, le directeur exécutif de l'OCDH, Trésor Ndila Kende, a dénoncé une instrumentalisation de la justice contre ceux qui ont contesté la victoire du président Sassou Nguesso.
Ça fait parfois rire de voir les magistrats s'amuser sur des questions aussi sérieuses, coller des infractions de façon aussi amusante comme ça contre des individus. À quel moment le général Jean-Marie Michel Mokoko a incité les gens à troubler l'ordre public? Est-ce que le fait d'avoir contesté la victoire de Sassou et d'annoncer les moyens pacifiques pour contester sa victoire peut être qualifié comme incitation à troubler l'ordre public?
La procédure sur l'affaire Mokoko suit son cours. Un procès pourrait même s'ouvrir en début septembre à la fin des vacances judiciaires. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la société civile du Sud Kivu est en pleine campagne de collecte de fonds, vivres et autres assistances en faveur des populations meurtries de Beni au Nord Kivu voisin. Il s'agit de la campagne Action Charité Beni Lubero. De Bukavu, les précisions de notre correspondant Ernest Mouhero.
C'est une montagne de vivres et non-vivres qui s'accumule petit à petit au bureau de coordination de la société civile à Bukavu. L'appel à la solidarité vis-à-vis des compatriotes de Beni a reçu un écho favorable dans l'opinion locale. Le président du bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu, Descartes Mpongé, parle déjà d'environ 1000 dollars reçus et plus ou moins 2 tonnes de vivres et non-vivres.
Nous croyons que ceux qui sont en train de traverser aujourd'hui, nous l'avons vécu à Kanyola, nous l'avons vécu à Kasika, nous l'avons vécu à Mako. Nous l'avons vécu à Bukavu, Tulumamba, Nzovu, Shabunda, Mutarule. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. La population du Sud Kivu, elle est en train de donner qui des savons, qui les habits, nourriture, vivre et non vivre. Jusque-là, on est autour de 2 tonnes et plus. Je vois les sacs de riz, les sacs de haricots, les ballons de friperie. Il y a même les cahiers.
Le coordinateur de la coalition congolaise pour la justice transitionnelle en RDC, Raphaël Wakenge, estime qu'il y a faible volonté politique dans la recherche des solutions à la montée des violences à Beni.
Toutes ces reprises des violences, on devrait déjà trouver une lueur d'espoir. Mais c'est le désespoir qui s'installe dans le chef des survivants. Qu'est-ce qu'on fait des recommandations de tous les rapports qui ont déjà été produits et publiés sur la situation de Beni? C'est tout cela qui pose problème. Et on chasse les défenseurs de droits de l'homme, Scott Campbell qui est parti, Jason Stern qui est parti, Ida Sawyer qui est parti. Peut-être on n'a pas besoin de voir de gens qui pourraient être témoins de ce qui est en train de se faire. Et peut-être demain, ça sera la chasse aux défenseurs de droits de l'homme congolais eux-mêmes.
Pour Jean-Luc Ziali Roy, un acteur politique du Sud-Kivu qui soutient l'initiative de la société civile, il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités.
Nous avons à l'UPRDI marre des massacres de la boucherie humaine. Ça nous rappelle les compatriotes de Mutarule tués gratuitement pour servir des causes égoïstes. Le peuple en tirera toutes les conséquences.
Le président du bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu appelle la diaspora congolaise à solidariser avec la population meurtrie de Beni.
La plupart des gens qui vivent à l'étranger, des non-compatriotes, ils sont partis par exemple dans des situations aussi de détresse. Voilà pourquoi nous lançons un appel pour que leur cœur soit touché, pour solidariser avec nos compatriotes de Beni, pour faire pression, obtenir même à travers des manifestations et témoigner ainsi cette solidarité qui va au-delà des frontières.
Dans le bureau de la société civile à Bukavu, la collecte se poursuit jusqu'au lundi 22 août. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Les Nations Unies ont reconnu leur rôle dans l'épidémie de choléra qui a fait près de 10 000 morts depuis octobre 2010 en Haïti.
Les organisations de défense des victimes saluent cette nouvelle position de l'ONU qui constitue, disent-elles, une première étape révolutionnaire vers la justice. Cependant, l'ONU assure qu'il ne s'agit pas d'aveu formel de sa responsabilité. Pour une réaction, Éric Manirakis a joint à Port-au-Prince le président du Bureau des avocats internationaux qui a défendu les victimes, Maître Mario Joseph.
Après 6 ans, et des durs labeurs et de combats vraiment longs, et enfin, l'ONU a reconnu sa responsabilité dans l'introduction du choléra en Haïti. Et donc, du coup, c'est-à-dire que notre démarche de chercher, de trouver ou de rechercher réparation pour les victimes, on est sur la bonne voie. Parce qu'il y a dommage, il y a préjudice, il faut qu'il y ait réparation. Donc, je pense que c'est une victoire aussi pour le peuple haïtien. Et pour les victimes du choléra qui ont fait beaucoup de sacrifices, qui ont laissé la province, c'est-à-dire le Balai, Boukakari, la Chapelle, pour venir à Port-au-Prince, pour les sittings, les marches, et pas devant le Longue-Bise. Donc c'est la victoire du peuple haïtien en général, et de tous les militants, les organisations de la société civile, et qui nous aident, et qui aident le bureau des avocats à entreprendre cette grande lutte.
Mais l'ONU a précisé qu'il ne s'agit pas d'aveu formel de sa responsabilité.
Depuis le claquement du choléra en Haïti, on savait que c'était les soldats népalais. Les soldats népalais n'étaient pas vraiment traités. Quand ils partaient de Kemandu, au Népal, il y avait une montée du choléra. Donc c'est clair, et tous les rapports des propres experts des Nations Unies, on cherche toujours un peu de prétexte pour dire que c'est parce qu'Haïti a une faible salinisation, n'a pas d'eau potable, c'est pourquoi. Mais de toute manière, il y avait, et tout le monde le sait. Maintenant, c'est une déclaration peut-être officielle, mais on le sait que les Népalais qui ont introduit le choléra en Haïti.
Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour que ce genre d'incident ne se reproduise pas?
Malheureusement, si on regarde le dernier rapport de l'Organisation même des Nations Unies, et c'était l'OSIS, autant que je me rappelle, et qui a fait sortir un rapport, et c'est que les eaux, les déchets, les matières fécales ne sont pas bien traitées. Et c'est un rapport de satisfaction. Donc malheureusement, nous avons un État, un gouvernement faible, et suivant l'accord du siège, qui ne peut pas demander à l'ONU de respecter ses engagements. Mais Haïti est encore précaire et très vulnérable par rapport à cette force d'occupation.
Maître Mario Joseph, joint à Port-au-Prince en Haïti.
Présidentielle américaine 2016, certains leaders républicains affichent un optimisme prudent après le récent remaniement de l'équipe de campagne de Donald Trump. De notre côté, le bras de fer se poursuit, dirait-on, entre la police fédérale, le FBI et les républicains du Congrès au sujet des emails de la candidate démocrate Hillary Clinton du temps où elle était secrétaire d'État. Timothée Doulangmaï, qu'est-ce qu'on en sait?
On sait que Donald Trump a procédé à des changements au plus haut niveau de son équipe de campagne, notamment en confiant la direction générale à Stephen Bannon, le directeur du site d'information conservateur Breitbart, en remplacement de Paul Manafort. Cet ex-lobbyiste international avait essayé d'amener le candidat républicain à modérer le ton de ses attaques tous azimuts, sans succès apparemment. Pour Sean Spice, stratège en chef de la Commission nationale du Parti républicain, le remaniement de l'équipe de campagne de Trump est quelque chose de positif. Toutefois, a-t-il souligné, l'équipe devra déterminer si le populisme ayant permis à Trump de décrocher l'investiture de son parti est sa meilleure chance de gagner la Maison-Blanche ou s'il faut déployer des efforts pour rallier à sa cause les Américains modérés. Les sorties acerbes de Donald Trump contre des adversaires fictifs ou réels, le président Barack Obama, la candidate démocrate Hillary Clinton ou encore les parents d'un officier américain musulman tué au combat, ont contribué à la défection d'un nombre croissant de républicains. Certains ont même décidé de voter pour Mme Clinton.
L'ancienne première dame et candidate démocrate, ou du moins ses emails du temps où elle était secrétaire d'État, continue d'opposer les républicains du Congrès au FBI, la police fédérale, Timothée.
Les législateurs républicains ont demandé à avoir accès au rapport d'enquête du FBI concernant l'utilisation par Mme Clinton d'un serveur privé pour ses communications du temps où elle était au département d'État. Ils soutiennent que Mme Clinton n'a pas dit toute la vérité aux enquêteurs de la police fédérale. Celle-ci a déterminé qu'Hillary Clinton et ses collaborateurs ont été très négligents en utilisant un serveur privé, mais qu'il n'y a pas de motif d'engager des poursuites criminelles contre la candidate démocrate. Le FBI a fourni des copies du rapport aux républicains en les mettant en garde contre toute fuite de ce rapport confidentiel sur Mme Clinton, ce qui a eu le don d'irriter les législateurs républicains qui accusent la police fédérale d'imposer sans raison des restrictions à l'utilisation de ce rapport. Certains républicains, tout comme l'équipe de campagne de Mme Clinton, demandent la publication pure et simple de ce rapport d'enquête du FBI.
Merci Timothée Doulangmaï.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Si vous appréciez la qualité technique de ce programme, faites un clin d'œil à Lionel Gaïma à la mise en ordre et Nachouane Calé à la console. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos près de 1 700 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Frater.